I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, dans le Rendez-vous Tech, on va vous parler d'Apple qui abandonne lâchement son Apple Car. On a aussi TikTok qui perd toute la musique d'Universal Music Group. Elon Musk qui fait un nouveau caca nerveux, potentiellement légitime, mais plutôt pas. C'est tout de suite donc dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et à toutes, c'est le Rendez-vous Tech numéro 555. 555, wow. Il y a sûrement un symbole caché là-dedans. On est en mars, c'est le printemps. Saviez-vous qu'en Finlande, le printemps commence le 1er mars ? Parce que ce n'est pas partout le 21 mars, messieurs, dames. Un petit peu de culturation, il y a des régions et des pays où le printemps, c'est le 1er mars.
C'est quoi le printemps en Finlande ? Il neige un peu moins ?
C'est ça, c'est exactement. Ça. Si tu vois dehors, en fait, ce qui se passe au printemps, c'est qu'on commence à revoir le soleil.
Il fait un peu moins nuit.
Il fait un peu moins nuit et il neige moins, donc la neige a potentiellement une opportunité de commencer à fondre. Là, on a de la chance cette année, il n'y a presque plus de neige sur le sol. Elle est bien compactée, mais quand même, souvent, ça va jusqu'en avril, hein, quand même, la neige. Ouais. Et sur le sol. Mais bon.
En tout cas, tu m'as appris un truc hein, sur le printemps, je ne savais pas.
Et ben voilà, et je le sais, bon, d'une part parce que je suis en Finlande et qu'en Finlande, en fait, tu as tellement hâte que le printemps vienne que je dis « Ok, non, c'est bon, 1er mars, ça va, c'est le printemps, c'est bon. » Et d'autre part, à l'époque où je travaillais chez Blizzard, alors là, je vais vous apprendre des trucs, à l'époque où je travaillais chez Blizzard, on disait des trucs du genre « Précommandez le jeu et vous pourrez y jouer ou genre jouer à la bêta en hiver. » Par exemple, tu vois, l'hiver 2023, ou un truc, il faut que tu donnes une date et c'est contractuel. Sauf que l'hiver, ce n'est pas la même date partout. Bah oui. Donc, il faut que tu vois, que tu t'assures que ça soit les... Bon, voilà, c'est ce genre de truc. Hey,
mais rassurez-vous, l'été arrive à la fin de la semaine aussi en Finlande. C'est le 8 mars. Et ensuite, on repasse à l'automne et l'hiver, c'est à partir du 5 avril.
C'est quand la température repasse au-dessus de zéro, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est ça. Ça dure une semaine.
Épisode exceptionnel, vous l'aurez tous et toutes compris, puisque nous avons réuni pour la première fois depuis 1822 l'ensemble des Fabulous. Jérôme Kainborg, Cédric Deluca et Corben sont là avec moi. Bonjour à tous les trois, comment allez-vous ?
Ça roule.
Eh ben, ça va très bien.
Très bien.
Vous êtes prêts à parler de projets fous d'Apple abandonnés, d'Elon Musk qui n'est pas content, comme d'habitude, de TikTok qui n'a plus de musique. Aucune musique, comment tu fais, Corben ? Je ne sais pas.
Elon Musk rachète Apple ?
Moi, je ne fais pas de musique. Quoi.
C'est ce qu'on a dit.
Sur l'essentiel.
On va donc parler de tout ça. Je voudrais remercier les Patriotes qui ont rejoint le Patreon. Favor, alias David Manfroy, Alex, Jib, Teddy, Rodriguez, Valède, Nicolas, Rélier, merci à vous tous d'avoir rejoint l'équipe formidable. On dit dans la chatroom, puisqu'on est en live sur Twitch, comme tous les mardis midi évidemment, et sur YouTube, entre parenthèses, on dit bonjour à Sylvain qui est sur YouTube. Il se sent peut-être un peu seul, mais il est là. Eh bien, on me fait remarquer que c'est les Avengers avec les trois. Mais en fait, Fanny vous a amoureusement nommé les Fabulous. Et moi, je trouve que les Fabulous, c'est bien mieux que les Avengers. Après, il faudra les noms de super Fabulous individuels. Peut-être qu'on réussira à les imaginer ou que les auditeurs et les auditrices ont des noms à proposer. N'hésitez pas, vous pouvez le faire, notamment sur Patreon, puisque vous aurez la préférence de nos choix sur Patreon. Et je voulais dire, les Avengers, les vrais super-héros de cette émission, c'est les Patriotes. Ceux qui ont rejoint l'émission ces derniers jours, ceux qui ont rejoint... le soutien depuis des années. Merci à vous tous et merci aussi aux producteurs. Alors, on a Julien D et Rémi X. Alors, je me demande si c'est une convention de nom d'avoir le prénom et une lettre. Peut-être que c'est maintenant comme ça qu'il faut faire. Et peut-être qu'on peut choisir des... C'est ça, oui, exactement. Tu ne peux pas dire ton nom complet. Donc, merci à Julien D, Rémi X et tous les autres Patreons et Patreons qui soutiennent l'émission. Un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes. Avant de se lancer dans l'émission elle-même, je ne vais pas refaire à chaque épisode, ça commence, je ne veux pas tomber non plus dans le pathos systématiquement. Je vous dirai quand ça va mieux, pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents. Tant que je ne vous dis rien maintenant, on va dire que c'est pareil. Pour vous donner un tout petit aperçu rapide de comment ça se passe, en fait, je suis arrivé à un stade où ma fille, quand elle joue à des trucs, elle joue à « Ah, papa, on va faire une plisse de sang. Viens, je fais le pic sur ton bras. » Et voilà, c'est les jeux de ma fille maintenant. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Donc voilà, c'est la stabilité. Ça ne va pas moins bien, quoi, en gros. Donc, je ne sais pas si je pourrais arriver au bout de cet épisode sans qu'une petite fasse irruption dans la chambre en disant « Papa, une prise de sang !» Bon. Mais bon, on verra. Il se passe des trucs en fin de semaine. Peut-être que ça ira un petit peu mieux. En tout cas, je suis heureux de retrouver les Patriotes. De retrouver les Fabulous, et je suis sûr que vous aurez des avis bien controversés, énervés et buzzy pour faire de cet épisode le meilleur épisode depuis le précédent, donc de 1822. Je compte sur vous.
Ça a saigné.
Ça a saigné, exactement. Et on se lance tout de suite dans les infos importantes à retenir cette semaine. Et on va faire un petit détour du côté d'Apple avec plusieurs news, mais on va s'attarder sur l'une d'entre elles, pas forcément celle à laquelle vous pensez. Une news à mentionner, c'est que le DMA entre en vigueur ces jours-ci et qu'il y a évidemment des effets importants du DMA sur les différents GAFAM et les grosses plateformes, les gros markets, comme le définissent le Digital Market Act, pardon. Et donc, ça va avoir des effets, on en a déjà discuté, sur l'App Store d'Apple, l'écosystème d'iOS en général, un petit peu moins sur les écosystèmes Android et Google plus largement, ainsi que Microsoft et les autres GAFAM. On en reparlera certainement parce qu'on va voir exactement comment ça va être implémenté et les premiers effets dans les jours et les semaines à venir. Mais pour le moment, je vous référerai au lien que je mettrai dans la newsletter, parce que j'espère cette fois-ci qu'il y aura une newsletter cette semaine. Ça devrait être bon, on a réglé nos différents problèmes de la semaine dernière. Donc, je mettrai un lien dans la newsletter sur les effets du DMA, un article de Numérama, qui est très bien fait. Et vous pourrez donc voir tout ça. En gros, l'essentiel, c'est que chez Apple, c'est l'ouverture forcée de l'écosystème avec d'autres App Store qui pourront être installés sur votre appareil iOS et la liberté pour les développeurs d'utiliser d'autres moyens de paiement que celui de l'App Store avec toutes les astuces vicieuses qu'a mis en place Apple. Vous vous souvenez qu'on en avait parlé pour faire payer les gens quand même. Vicieuses, je dis, on peut estimer qu'elles sont justifiées selon certaines interprétations. En tout cas, le DMA, on en reparlera. L'autre chose dont on ne va pas forcément débattre en longueur et qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'amende infligée à Apple par l'Union européenne, une amende record de 1,8 milliard d'euros. Pourquoi ? Pour abus de position dominante dans le domaine spécifique du streaming de musique. C'était une plainte initiée par Spotify il y a des années déjà, et l'Union européenne a estimé qu'effectivement, Apple avait contraint le marché du streaming de la musique en obligeant Spotify à passer par le système de paiement d'Apple s'ils voulaient générer de nouveaux abonnés par leur app. Apple s'est fendu d'une réponse, comment dire, salée sur ce sujet en mettant en avant tout ce que iOS et les iPhones offrent à Spotify. Un écosystème stable, un nombre de clients potentiels énorme, un maintien du système pour lequel Spotify ne paye rien. D'ailleurs, Spotify ne préfère faire payer les gens, faire s'abonner les gens par le web. Et donc, Apple met en avant le fait qu'ils ne sont pas juste contents d'avoir tous ces services et tout ce marché qui leur est proposé gratuitement. Et pour eux, gratuit, ça n'est pas assez, ils veulent encore plus. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ce que dit Apple n'est pas faux. Mais en même temps, ce n'est pas toute l'histoire. Et le reste de l'histoire est important aussi. Le reste de l'histoire étant que le marché iOS et iPhone étant devenu incontournable pour le commerce sur mobile, le fait qu'ils verrouillent les systèmes de paiement par les apps, qui représentent une grosse partie des revenus pour les développeurs, peut être considéré comme un abus de situation dominante, de position dominante, et c'est ce qu'a considéré l'Union européenne, qui a donc initié cette amende d'1,8 milliard d'euros. Bon, Apple peut payer 1,8 milliard d'euros, et maintenant que le DMA entre en vigueur, le store et les moyens de paiement sont ouverts de toute façon, avec des préoccupations des développeurs tout de même. Voilà, l'affaire en est là, sauf que elle n'en est pas vraiment juste là, parce qu'elle va continuer, étant donné qu'Apple a décidé de faire appel de cette décision. On nous demande dans la chatroom, je serais curieux de savoir à quel budget sont réattribuées ces amendes. Effectivement, ça rentre dans le budget de l'Union européenne. Je ne sais pas s'il y a un domaine spécifique dans lequel ces sommes vont automatiquement. C'est une bonne question, mais évidemment, ça revient dans le budget de l'Union européenne dans son ensemble. Donc, ces sujets sont intéressants, mais encore plus intéressant que ça, je trouve, c'est le sujet le plus important chez Apple de ces dernières semaines, peut-être même de ces dernières années, la voiture Apple. La voiture Apple est un projet qui a été lancé il y a environ 10 ans chez Apple, et qui a été abandonné, on en a eu la confirmation ces deux dernières semaines, qui a été abandonné, donc, là, très récemment. Il y a quelques semaines, on entendait qu'ils auraient peut-être pivoté d'un système entièrement autonome à un système plus classique à la Tesla, donc une autonomie plus limitée. Et là, on apprend de plusieurs sources que le projet est entièrement abandonné. Il n'y aura donc, a priori, pas de voiture Apple qui sera fabriquée, ou du moins pas dans un futur à court ou moyen terme. Et la chose qui ressort de ces articles et de ces enquêtes, c'est que, en fait, le problème est venu d'une décision qui a été prise il y a 10 ans, au début du projet, qui était le choix entre deux buts à poursuivre pour Apple. Soit il pouvait essayer de concevoir un véhicule avec une autonomie de niveau, on va dire, 2, 3, voire 4, c'est-à-dire un véhicule qui peut être autonome dans certaines conditions spécifiques, ou alors concevoir un véhicule d'autonomie de niveau 5. Et le niveau 5, c'est un véhicule qui va être autonome en toutes circonstances et qui conduit comme un humain, partout où un humain peut conduire. Donc l'idée d'Apple, c'était de faire un véhicule qui n'avait pas de volant et pas de pédales, mais uniquement des sièges, et qui se conduirait vraiment 100% tout seul. Et ce choix est considéré aujourd'hui comme trop ambitieux, voire arrogant, et c'est ça qui a fait qu'ils ont été contraints d'abandonner le projet, parce qu'ils se sont rendus compte que d'une part, ils n'y arriveraient pas, et d'autre part, le reste de l'industrie avait fait suffisamment d'avancées sur les autonomies plus modestes pour qu'ils ne puissent pas amener de valeur ajoutée significative sur ce type de projet, alors que s'ils avaient commencé par là, peut-être qu'ils auraient pu amener quelque chose d'intéressant au bout de 5 ans. C'est ce qu'on estime ici et là. Du coup, je vous pose la question à tous les trois. Est-ce que vous pensez que c'était de l'arrogance de la part d'Apple, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Jérôme, toi, tu voues un culte évidemment à Apple, puisqu'ils te font les meilleures vues sur ta chaîne YouTube, et donc tu ne veux parler que d'eux. Donc je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de cette situation de l'Apple Car et de cette conclusion tragique au projet ?
Moi, j'ai une hypothèse un peu complotiste.
Aha. Très bien. Non, vas-y, moi, on mettra ça en avant sur les miniatures.
Apple Car était un moonshot pour Apple qui a été sacrifié pour rassurer les actionnaires.
Mmh. Les ça a quand même coûté 10 milliards de dollars en 10 ans, le projet.
Ouais.
Donc, oui, c'était...
Mais, oui, c'est du moonshot.
Ça fait moins d'une amende par. Ça fait moins d'une amende européenne par an.
Ouais,
d'accord. Ouais, voilà.
Une demi-amende par an.
C'est un moonshot en plus qui est porteur d'image. Tu vois que Apple travaille sur une voiture, même s'ils sortent rien. Voilà, ça faisait partie des fantasmes. Mais là où je dis que Apple a sacrifié ce moonshot aux actionnaires, c'est que les actionnaires Apple sont extrêmement fébriles en ce moment sur le retard réel ou pas d'Apple sur l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative, si Apple rate ce virage par leur fancy retard, genre nous on prend notre temps, s'ils ratent le virage, ça veut dire que dans, allez, 3 à 5 ans, les produits Apple seront tous obsolètes. Et là, ce n'est pas 10 milliards de dollars qu'ils vont perdre, c'est Apple qui s'effondre. Et oui, Apple peut s'effondrer comme Kodak s'est effondré, comme la Paname s'est effondrée. Voilà, un mauvais choix industriel. L'industrie, aujourd'hui, pousse à fond sur le génératif et ça va très vite. Apple ne peut pas se permettre de se prendre ces 2-3 ans de retard comme ils font d'habitude pour les différents trucs. Et les actionnaires sont très inquiets. Donc, je pense que Tim Cook n'a pas réussi à rassurer ses actionnaires au dernier board d'Apple en disant « Oui, oui, on arrive sur le… » Et le board a dit « Ouais, ben, on ne voit rien. » Il a dit « Bah écoutez, on est tellement sérieux qu'on flingue la bagnole et tous les meilleurs ingénieurs qui étaient sur la bagnole, toutes les ressources, ils sont à fond sur l'IA. Donc, même si l'IA, la première année, ça va être un peu naze, on est à fond dessus. » Moi, c'est mon interprétation de la nouvelle.
Tim Cook disait effectivement il y a quelques jours de ça, on arrive avec un changement de paradigme, ou je ne sais plus les termes exacts qu'il a employés, mais c'est à peu près ça, avec un changement de paradigme sur l'IA dans iOS. On a des breakthroughs importantes qui seront annoncées sans doute à la WWDC en juin, on imagine. Mais donc Apple arrive sur l'IA effectivement. Toi, tu penses que il fallait faire plus pour rassurer les actionnaires. Cédric,
ouais, je pense qu'ils sont en retard hein, sur l'IA. Oui. Ils essaient de le dissimuler. Ils disent on va arriver avec un gros truc, mais je pense dans les faits que Apple n'avait pas vu l'arrivée de l'IA aussi rapide.
Ah bah ça, personne l'avait
tellement
vu,
changé les choses.
Ça, ouais. Personne ne l'avait vu, c'est sûr. Mais c'est sûr que les autres se sont, bah, comme souvent, hein, adaptés plus vite. Mais généralement, ce que fait Apple, c'est qu'ils arrivent un peu plus tard avec des trucs qui fonctionnent mieux. Mais pour revenir sur la voiture, Cédric, Corben, bon choix, mauvais choix, erreur de base, arrogance. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre.
Moi,
Corben,
je pense que oui.
Vas-y.
Ouais, si, ouais. Moi, je pense que oui, Apple, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre parce qu'il y a 10 ans déjà, il n'y avait rien de tout ça. Là, actuellement, les voitures. Alors, il n'y a pas de voiture autonome actuellement. Enfin, il y en a, mais.
Pas de niveau 5, en tout cas.
Voilà, pas de niveau 5. En tout cas, sur le marché, là, c'est du niveau 2 et du niveau 3 au max, quoi. Après, il y a des expérimentations, mais c'est tout. Et en fait, ça, tu ne peux pas le faire sans IA. Ouais, par exemple, là, en fait, tu as deux façons de faire des véhicules autonomes. Soit tu codes tout et tu essayes de prendre en compte tous les cas de figure, ce qui est impossible parce que bah, on est à l'extérieur, il y a des gens qui passent, il y a plein de situations différentes. Soit il faut faire de l'IA, c'est pas parfait non plus, mais ça permet d'avoir encore plus de possibilités. Et vu ce qu'explique Jérôme, où Apple est déjà à la bourre sur l'IA, voilà, je les vois pas en tout cas. Bosser sur ce sujet-là tout de suite. Quoi. Mmh. Pour moi, ils ont été trop. Enfin, ils sont trop en avance, en fait. Ils ne pourront jamais faire une voiture. En tout cas, là, maintenant, avec les technos actuels, ils ne peuvent pas faire une niveau 4 ou une niveau 5. C'est impossible. Ouais.
Le niveau 4, on n'y est pas tout à fait. Le niveau 4, c'est de la conduite autonome, vraiment, mais dans un cadre spécifique. Et ça se fait. Hein, sur certaines zones qui sont bien cadrées, il y a des véhicules autonomes qui conduisent. Dans des villes avec des types de circulation spécifiques, oui, voilà, ouais. Etc. Mais c'est vrai que les gens qui surveillent ça de loin doivent reprendre la main parfois, corriger certains trucs. Mais disons qu'on est peut-être à 3,5, mais certainement pas à 5. Cédric, ton avis également, et puis je donnerai le mien à la fin. Ouais. Et je mettrai tout le monde d'accord parce que j'ai toujours raison, on le sait.
Il y a des travaux dans le bâtiment, il y a des coups de perceuse, j'espère que ce ne sera pas trop gênant. Là, il y en a un, par exemple, en ce moment, est-ce que vous l'entendez?
On l'entend bien, on l'entend bien.
Ouais.
Ça va.
Vous l'entendez bien, ouais, voilà. Donc, j'essaie de couper mon micro quand je peux. Mais c'est bien, ça va me permettre de moins parler. Donc, problème. Moi, en fait, je pense deux trucs, c'est que comment ont-ils pu se planter à ce point ? Si l'objectif premier de la Apple Car, c'était de faire de l'autonomie niveau 5, mais en fait, il n'y a pas besoin d'être visionnaire et d'avoir des milliards de dollars pour comprendre qu'en fait, ce n'est pas aujourd'hui en tout cas possible, et même dans un futur très proche. Déjà, le Vision Pro, et tout le monde s'accorde à dire que en fait, ce qu'ils ont fait avec le Vision Pro, c'est on utilise les technos actuels pour faire un truc qu'on aimerait bien faire dans le futur, et du coup, ben, ça donne un truc un peu goofy, pas parfait, etc. Mais la voiture, en fait, c'est exactement ça. En fait, on est exactement sur ça. C'est-à-dire un produit qui, de toute façon, aurait eu l'air hyper étrange s'il avait fallu faire de l'autonomie niveau 5. Quand on voit les Waymo avec tous les capteurs partout sur le toit et tout ça, ça donne un truc extrêmement moche. C'est-à-dire qu'on part d'une... Eux sont partis chez Waymo d'une voiture existante et ont rajouté par-dessus tout un équipement lidar, radar, caméra, tout ce qu'on veut, computing de malade et compagnie, et ils n'y arrivent pas. Connaissant Apple, sortir un produit qui ressemble à ça, c'est inconcevable.
Ah bah non, il l'aurait fait très beau, hein, celui d'Apple, évidemment.
Oui, mais sauf qu'en fait, il y a des limites physiques à cacher ce genre de capteur, en fait. On ne peut pas faire n'importe quoi. Volkswagen, avec l'ID3, par exemple, avait déjà, à l'époque, fait la démonstration de mini-lidar qui se levait du toit pour faire de la conduite autonome. Ça n'a jamais vu le jour. C'était vraiment une vision futuriste. Si vous retrouvez les premières présentations de l'ID3, on avait l'impression que Volkswagen allait nous vendre la voiture sans permis, sans avoir besoin. On achetait une voiture et elle nous conduisait, en fait, vous voyez. Et donc, mais en fait, c'est inconcevable. Aujourd'hui, c'est absolument pas possible. Peut-être que dans quelques années, parce qu'on commence à mettre des IA génératives pour l'interprétation justement des images filmées par les caméras, les différentes données des capteurs et tout ça. Évidemment, il faut jamais dire jamais. Ça arrivera peut-être un jour, mais dans l'état actuel, en fait, soit ils sont partis trop tôt, mais en même temps, pour être premier en général, c'est mieux de partir avant. Bah, soit ils sont partis trop tôt. Voilà. Mais en fait, je pense que là, c'est un problème d'estimation de temps, en fait, voilà, de ligne de départ. Bah, c'est-à-dire qu'ils sont partis beaucoup trop tôt sur un projet qui... Enfin, je veux dire, c'est comme aller habiter sur Mars, en fait. Ouais, on est de ce niveau-là de complexité, même si, voilà, même si dans les faits, ça peut paraître étrange de dire ça, mais je vous jure qu'en fait, c'est du même niveau de réflexion, parce que enfin, si la voiture renverse quelqu'un... Enfin, bon, je vous laisse imaginer le bordel. Mais en fait, c'est extrêmement complexe.
Parce que moi, je rejoindrais un petit peu, pas trop Jérôme, je ne suis pas sûr que ça soit une question de bourse, peut-être, mais je suis un petit peu d'accord avec vous deux. Je crois qu'en fait, on a tendance à oublier que le projet a été lancé il y a 10 ans, et quand vous dites trop tôt, quand tu dis Cédric trop tôt, c'est effectivement trop tôt, mais ça, on ne le sait qu'après. Parce qu'il y a 10 ans, on avait l'impression que potentiellement dans 10 ans, on y serait quasiment. Et donc, l'idée de partir sur ce choix-là, il y a 10 ans, n'était pas incohérent. Il disait, si on fait des voitures niveau 2 ou 3, voire même 4, bah, ce n'est pas une valeur ajoutée assez importante pour qu'on fasse un produit Apple, qui en plus, Apple, il marche à 30, 35, 40%. Et traditionnellement, les voitures, ça ne marche pas du tout autant. Bon, c'était le cas dans les téléphones aussi jusqu'à ce que l'iPhone arrive, mais il y a quand même une limite de ce qu'on peut dépenser dans une voiture, ou en tout cas pour que le marché soit d'une taille intéressante pour Apple. Et du coup, ils se disent, il y a 10 ans, bon, où est-ce que le marché va aller? Où est-ce qu'il sera dans 10 ans? Si c'est pour faire de l'autonomie partielle, ça ne nous intéresse pas. Donc, partons sur l'idée que si l'autonomie niveau 5 commence à être envisageable dans 10 ans, eh ben on y sera, nous, et on sera prêts. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on a perdu ? 10 milliards ? Franchement, pour Apple, ce n'est pas grand-chose non plus. Hein. C'est jamais rien, 10 milliards. Mais donc, le choix, à mon sens, est cohérent. Et ça s'inscrit dans la stratégie d'Apple, qui est d'avoir des produits à haute valeur ajoutée, différenciés de leurs concurrents. Et s'ils voulaient venir sur la voiture, il fallait que ça soit avec une voiture vraiment différente, une sorte de salon sur roue où ils auraient pu mettre en avant leur spécificité. Si c'est une voiture normale, ça ne sert à rien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et j'ajoute il y aura sans doute des enseignements de ces projets qui vont être réutilisés ailleurs. Ça, on le verra dans les années à venir. Mais je peux imaginer qu'ils ont, avec les recherches qu'ils ont faites, les technologies qu'ils ont développées, peut-être qu'ils recycleront ça ailleurs. Pardon, Corben.
Pour moi, c'est que partie remise. S'ils se concentrent sur l'IA, s'ils boostent sur l'IA et qu'à un moment, ils arrivent à faire quelque chose avec de l'IA, l'IA pourra conduire la bagnole et après le reste c'est juste une voiture quoi. Enfin tu vois, c'est pas, il y a rien de sorcier. C'est vraiment l'autonomie qui est compliquée.
Ouais, il y avait un truc aussi qu'on avait oublié, mais que cette histoire nous rappelle bien, c'est qu'Apple se plante. Et en fait, c'est bête, mais l'insolence de la réussite qu'ils ont depuis des années, que ce soit avec leur Apple Silicon, etc. Bref, avec tout ce qu'ils lancent, même s'il y a peu de prise de risque, se transforme en lingot d'or. Ouais. Et là, il y a déjà une prise de risque avec le Vision Pro qui peut être le premier gadin industriel des années 2020. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'à une époque, Apple se plantait souvent. Ça fait quelques années que la prise de risque est plus limitée. Et du coup, qu'ils se plantent moins. Non, mais si, on l'a vu avec, que ce soit dans les services, que ce soit dans les appareils.
Bien sûr.
Rappelez-vous de Ping. Rappelez-vous
non, mais
de
bien
Ping.
Sûr, tout le monde parle de Ping. Et oui, c'était un gadin monumental. Mais il y en a eu des gadins. Il y a beaucoup de succès pour compenser, en tout cas depuis le retour de Steve Jobs.
Bien sûr.
Et là, n'oublions pas non plus que c'est un produit qui n'a pas été lancé. Donc, ils se sont arrêtés
Là où je suis complètement d'accord avec Cédric, c'est que je trouve, moi, en ce moment, et pourtant, je me considère Apple fanboy, qu'on est dans une phase où Apple ne peut pas se planter. Quand tu parles en te disant, si, Apple peut se planter et sortir peut-être un Siri en agent conversationnel qui va avoir des hallucinations, il y aura des bad buzz comme Gemini a en ce moment avec Google. Enfin, il y a plein de gadins possibles, mais il y a un tel aveuglement des fanboys en ce moment de dire, non, c'est Apple, ils ne peuvent pas se planter. S'ils sont en retard sur l'IA, c'est parce qu'ils vont faire quelque chose de mieux que les autres. Il y a cette croyance presque religieuse que Apple ne peut pas se planter. C'est quelque part une entreprise comme les autres. Voilà.
Ouais, clairement. Mais par contre, sur l'IA, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse que vous faites sur le fait qu'ils soient en retard. Parce que pour le coup, moi je pense qu'ils ont un coup d'avance justement. Et là, on l'a vu encore cette semaine avec l'actualisation des MacBook Air avec le M3. Et c'est pas un hasard en fait si toute la gamme passe en M3 juste avant la WWDC pour l'exécution de modèles en local, etc. Parce que vraiment, cette puce, elle est faite pour ça. Elle est designée pour ça. C'est-à-dire que leur force, ça va être que eux vont pouvoir proposer de l'IA sans proposer un abonnement ou un service derrière, puisqu'en fait, ça va tourner en local sur la machine.
C'est vrai.
Et ça, pour le coup, c'est un vrai coup d'avance par rapport à Microsoft, par rapport à tout le monde, puisqu'aujourd'hui, faites tourner un LLM sur votre ordinateur Windows sans une carte graphique RTX, bon chance.
Ouais.
Donc,
on va pas trop partir sur l'IA, parce qu'on en parlera au moment de la WWDC, mais moi non plus, je suis pas d'accord sur l'idée qu'ils sont en retard, parce que le fait que ça aille tellement vite ne veut pas dire que les produits sont... complet, compétent, etc. Le coup qu'Apple a joué, c'est le fait qu'ils ont tout votre écosystème, plein d'informations en local, en sécurisé, etc. Et une implémentation beaucoup plus efficace d'IA générative au service des personnes. Et on verra s'ils vont réussir. Mais s'ils ont pris 6 mois de plus ou même 1 an de plus à le faire... On ne se souviendra pas dans 10 ans que ça a pris 6 mois de plus, tu vois. Bon, on pourrait considérer que la promesse de Siri est là depuis 10 ans et que donc ça a pris 10 ans, mais bon, on verra.
Et si Dame Nature se repointe à la WWDC, elle pourra dire, c'est bien, vous exécutez ça sur des machines qui consomment 15 watts et pas sur des processeurs Nvidia qui consomment des terawatts
200 watts
des hectolitres d'eau à chaque requête. Tu vois,
je veux pas trop ouvrir sur le sujet, mais et d'abord, je sais pas si Apple va se planter. Je dis juste que c'est une probabilité qui est non négligeable, dans le sens où, là où Cédric a complètement raison, ils ont un coup d'avance sur les langages en local, etc. Mais vous le savez tous, ce qui compte en IA, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'on obtient quand on prompte quelque chose ? Et moi, j'ai très peur aussi d'un autre truc, c'est que Apple va être tellement prudent, parce qu'Apple ne peut pas se permettre d'avoir des bad buzz comme Gemini à générer des personnages, machin, etc. Et du coup, ils risquent de nous faire un truc génératif tellement faible et décevant et tellement secure qu'en fait, ça marchera moins bien que les autres. On verra.
Bah, le truc, c'est qu'ils sont pas sur le marché. On pourra en parler, mais...
On en reparlera à la WWDC. Ils vont être plus
sur, voilà, sur le LLM personnel.
Et surtout, moi, ce que je prédis, c'est qu'à la WWDC, ça va être magique et incroyable, et tout le monde va en parler, parce que ça sera la démo faite par Tim Cook ou par un des execs sur scène. L'histoire sera peut-être différente quand on l'aura dans les mains en septembre. Bon, ok.
En français, ça marchera peut-être moins bien.
Ah, ça, c'est certain. Deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est celui de TikTok et de Universal Music Group. TikTok a pris la décision, ou a été contraint, de supprimer tous les morceaux publiés par UMG, Universal Music Group, parce qu'ils n'ont pas trouvé un accord entre les deux parties. Universal Music Group explique qu'ils veulent s'assurer que leurs artistes soient d'une part bien rémunérés, puis protégés contre les dangers potentiels de l'IA, et que les utilisateurs de TikTok soient protégés contre les dangers potentiels d'un réseau social, et qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord avec TikTok, ça fait quelques semaines déjà. Et TikTok, sans accord, n'a donc plus le droit d'utiliser les morceaux d'UMG sur son réseau et a donc retiré tous les morceaux publiés par UMG. Et donc, on se retrouve avec des vidéos, d'une part, qui sont sans musique, la musique a été juste virée, et d'autre part, des artistes qui ne sont plus présentés sur TikTok, qui ne sont plus disponibles sur TikTok et qui peut-être, pour alors les plus gros, évidemment, on se doute que ça va, mais pour les plus petits, n'ont plus cette opportunité d'avoir une visibilité sur l'outil de découverte musicale le plus important au monde ou l'un des plus importants au monde. Alors, il y a plein d'éléments dans cette équation. On peut se demander si Universal, avec ses grandes déclarations presque altruistes, n'est pas finalement en train de négocier des tarifs de licence qu'ils se mettront dans la poche avant d'en repasser des miettes aux artistes de toute façon, comme ils le font depuis toujours, que tout le reste, c'est un peu pour justifier ça. Bon, c'est possible. Et il y a aussi la question de, est-ce que TikTok est devenu un outil tellement indispensable pour que les artistes réussissent à se faire connaître qu'ils risquent de véritablement souffrir dans ce bras de fer entre ces deux grosses sociétés et qu'ils ne puissent pas avoir accès à l'outil. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette bataille est légitime pour les artistes? Est-ce qu'elle se fait à leurs dépens? Est-ce que TikTok est indispensable? Il y a des choses à dire là-dessus. Qui est le plus gros utilisateur de TikTok ici? Corben sans doute, mais Corben, il fait des vidéos sérieuses sans musique. Ouais, tu connais la plateforme, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Oui, bien sûr. Bah, je pense que oui, c'est dommageable parce que je ne compte pas le nombre d'artistes qui ont réussi à percer, en tout cas de chansons qui ont réussi à se faire connaître grâce à TikTok. Quoi. Donc c'est quand même dommage, en fait, quelque part, que ces choses-là puissent plus arriver, en tout cas pour ce catalogue-là. Après, voilà, ça fait partie des négos classiques des maisons de disques, des ayants droit, comme d'habitude. Quoi. C'est les bras de fer, ça va. À mon avis, ça va rentrer dans l'ordre. Au bout d'un moment, ils vont renégocier un truc, il va se passer quelque chose, ils vont réintégrer. Ça, à chaque fois qu'il s'est passé un truc comme ça, alors des fois, il y en a qui mettent des années avant de réintégrer les plateformes. Il y a eu le même cas avec Spotify, etc. Mais bon, là, c'est tellement énorme. Moi, je suis artiste. Tu me dis, viens signer chez moi, mais désolé, tu ne seras pas diffusé sur TikTok. Je vais signer ailleurs, tu vois. C'est quand même con, quoi, en fait.
C'est-à-dire que dans l'histoire, c'est pas Universal Music Group qui tient toutes les cartes. TikTok a aussi, c'est un vrai bras de fer, comme tu le dis. TikTok a aussi une position à faire valoir auprès des artistes en disant, vous allez chez Universal, vous serez pas sur TikTok. Bonne chance, bon courage. En même temps, est-ce qu'on n'est pas, Cédric, toi qui connais bien le business
Je connais mieux que ça. Moi, j'ai même un de mes étudiants qui, d'ailleurs, enregistré ici dans le studio des sons sur TikTok, qui a été repéré, qui maintenant a signé, fait des featuring.
Ah oui.
Il fait des millions d'écoutes sur Spotify et sa carrière est lancée, tu vois. Donc,
d'accord.
Il a signé peut-être chez Universal, d'ailleurs. Mais il a commencé par TikTok.
C'est marrant parce que voilà. J'allais te dire, mais du coup, est-ce que c'est bien beau d'être, d'être présent sur TikTok, mais c'est le fameux « t'es payé en exposure », t'es payé en « on te montre aux gens », en visibilité, voilà, être payé en visibilité, est-ce que ça donne quelque chose ? Bah, tu me réponds avant même que je t'ai posé la question, oui, ça peut permettre à des artistes d'être repérés, de signer, de se lancer dans une carrière, véritablement, ou d'accélérer leur carrière.
Tiens, regarde, je partage l'article dans ton chat. Ah mince, ça n'a pas fonctionné. Mais typiquement, le titre de l'article, c'est « Opinard, l'article qui cartonne sur TikTok ». Voilà, et bien au-delà. Et là, c'était quand il s'était lancé. Et depuis, bon, maintenant, il trace sa route. Ses morceaux sont même utilisés dans des émissions de télé et tout. Enfin, bref. Je sais pas de quand date l'article. De novembre, non ?
17 octobre 2023, oui. Ouais, c'est interview d'Opinard, bon. et c'est lui qui s'est repéré sur...
C'est ça, et du coup, ouais, il fait des sa carrière est lancée, hein. Maintenant, il a signé, il est payé pour vivre de sa musique et tout, donc il est hyper content. Et c'était un de mes étudiants, il était ici, et c'est même moi qui lui ai dit, justement, à la fin de sa deuxième année, je lui ai dit, fais ton année de césure, je pense que ça peut valoir le coup, t'as peut-être un truc à jouer, et bah bingo, voilà.
Du coup, je pense que tu devrais avoir droit à un petit pourcentage de... Quand même, oui, tu lui as donné un bon conseil, tu lui as dit, va sur TikTok.
Je suis pas son agent.
Ça vaut bien 3%. Non, bon,
okay. Ouais, c'est ça, je suis pas son agent, mais en attendant... ouais, voilà, peut-être un jour, j'aurai une chanson sur moi. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il fait des scènes, il fait plein de trucs, mais il a été lancé par ça. Et donc, si demain... Lui qui est lancé sur TikTok, il a son public sur TikTok, il fait des millions d'écoutes, etc. S'il est chez Universal et que la maison de disques lui dit « Bah écoute, maintenant c'est fini TikTok », en fait, il se coupe de sa base et de son public d'origine. Et là, c'est une catastrophe même pour lui, en fait.
C'est ça qui est intéressant.
Mais du coup, la maison de disques qui investit sur lui, en gros, c'est comme si elle investissait à vide sur quelqu'un. En gros, bah écoute, ce qui a fait ton succès, c'était ça. Maintenant, on va le couper. On t'a filé plein d'argent, bon bah tant pis pour nous. En fait, en gros, ils vont jeter tellement d'argent par la fenêtre parce qu'on pense évidemment qu'aux grands artistes, des fers de lance, tu vois. Si Rihanna était chez Universal, je ne sais même pas où elle est, mais bref. Effectivement,
il y en a beaucoup de gros, hein. Je crois que Taylor Swift est chez Universal.
Voilà, exactement. Bah, typiquement, tu vois, Taylor Swift, si Universal dit on retire tout Taylor Swift de TikTok, là, le préjudice est côté TikTok. Par contre, quand on parle de petits artistes comme lui, le préjudice, il est plutôt côté artiste et du coup côté maison de disques. Parce que c'est eux qui créent une catastrophe industrielle en investissant sur des artistes et en les retirant du catalogue.
C'est un bras de fer. Comme tous ces bras de fer, ils vont finir par trouver un accord. Ils vont se retrouver au milieu entre ce que demande Universal et ce que veut donner TikTok. Et dans 2 mois, on n'en parle plus. Même pas dans 2 semaines. Ouais.
Après,
Jérôme, est-ce que tu peux nous donner une opinion bien controversée qui va mettre un coup de
pied
dans tout ce qu'on raconte ?
C'est à cause de l'IA.
Mais
attends, c'est pas complètement faux. Mais non, d'abord, je voulais dire, profitons de ce moment de grâce, moi qui regarde beaucoup TikTok, où on a un formidable concours de mimes. Hein, digne de Marceau. Quand on regarde des pages de gros influenceurs TikTok, on a des trucs. Moi, je suis mort de rire en ce moment. J'adore regarder ce contenu muet, en fait. Bref, ça, c'est.
Mais entre parenthèses, ça peut aussi permettre à d'autres artistes qui sont plus petits et qui ne sont pas couverts par ces grosses majors d'émerger.
C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a tout un tissu underground dans la musique qui arrive à émerger. Mais ce que je voulais dire, n'oublions pas aussi de remettre l'église au milieu du village. C'est TikTok qui est allé voir Universal et qui leur a dit « On vous donne tant d'argent, on pense que vous ne méritez pas tant d'argent, on va vous donner moins. » Donc, il faut voir aussi les leviers de la négociation. C'est TikTok qui est arrivé chez Universal en disant « Ouais, en fait, on ne va plus vous payer ce qu'on vous paye. Il nous faut une diminution de prix. » Et ils ont demandé une très grosse diminution de prix. D'où le mouvement Universal de dire...
TikTok veut payer moins, c'est ce que tu dis. Moins que ce qu'ils payaient avant.
TikTok veut payer moins. Et du coup, Universal, ils ont dit un truc qui est très vrai dans ce business de la visibilité. La visibilité, c'est bien beau, mais il faut vendre quelque chose derrière. Oui. Il faut que ça rapporte de l'argent, cette visibilité. Sinon, elle ne sert à rien. Si on ne paye en visibilité, mais il y a zéro business model, en fait, elle ne sert à rien, la visibilité. Et c'est un peu ce qu'a dit Universal. Ils ont dit, nous, c'est très bien que vous propulsiez nos artistes, machin. Merci TikTok. Mais au final, pourquoi faire Comment
c'est pour ça
on
que je posais la question à Cédric. Voilà. Et c'est ce qu'on nous dit dans la chatroom. On nous dit il y a des gens qui sont des mégastars sur TikTok et qui font rien ailleurs, qui vont pas remplir des salles, qui vont pas vendre des albums. À la limite, peut-être un peu de streaming sur Spotify ensuite. Mais en soi, être une mégastar sur TikTok, si ça ne rapporte rien par l'intermédiaire de l'éditeur, bah, ou enfin par l'intermédiaire de TikTok directement, bah, super, bravo. T'es payé en visibilité, ça paye pas le loyer, quoi.
Et t'as résumé tout le problème du business de la visibilité, ça peut être YouTube, n'importe quoi. Ouais. C'est la première fois au monde dans l'histoire du showbiz qu'on peut être extrêmement célèbre et que ça rapporte même pas un SMIC. C'est la première fois que ce système économique existe. Autrefois, célébrité voulait dire argent derrière et infrastructure que tu pouvais te payer. Et aujourd'hui, on est dans un modèle économique. Et c'est ça que Universal ne veut pas, à tort ou à raison. Mais en tout cas, Universal dit à quoi bon, finalement, promouvoir des artistes si ça ne rapporte pas un copec, quoi.
Faudrait voir combien ça rapporte spécifiquement. J'imagine que ces chiffres-là ne sont pas accessibles. Mais bon, écoutez.
Il y a Dragon Modo qui, voilà, tient typiquement. Opina va venir à Lyon dans une salle de 200 personnes. Ben ouais, c'est ses premières tournées. Après, il va au Trianon, etc. Mais les salles sont remplies. Et en fait, aujourd'hui, il en vit. Vraiment,
d'accord.
Le contrat qu'il a signé, il en vit.
Ouais, alors je ne sais pas quel est le statut de célébrité d'Opina, mais 200 personnes, effectivement, ce n'est pas non plus une salle monstrueuse. Une petite salle. C'est considéré comme un
tremplin. Mais la question, c'est de savoir s'il s'en sort. Hein. Oui, mais la question de ce que disait Jérôme, c'est est-ce qu'il s'en sort un SMIC aujourd'hui ? Bah, s'il s'en sort plus que ça, parce qu'en fait, bon, c'est pas TikTok son revenu principal, c'est sa musique, tu vois.
Oui, bien
c'est
sûr.
Les millions
d'écoutes
qu'il a sur Spotify et sur iTunes.
C'est ça.
Music,
c'est ensuite Spotify qui va prendre le relais, Apple Music, etc. Ah, oui. Et c'est ça qui va. Oui, donc ça peut aussi passer par là, mais.
Le fait que sa musique soit utilisée dans des films, dans des séries, dans des publicités aussi, en fait, ça joue beaucoup.
Non, mais ça peut très bien marcher, mais juste pour donner un contre-exemple, Cédric. Il y a eu espèces de réunions d'influenceurs. Et l'année dernière, ils avaient invité des grands TikTokers, des gens qui ont des millions et des millions d'abonnés. Et en fait, personne n'est venu les voir. Il y a un taux de mémorisation sur TikTok qui est très bas.
Ouais,
c'est pas du tout comme YouTube ou d'autres plateformes. Alors, ça peut marcher. Et dans le cas d'Opinard, manifestement, ça a très bien marché. Tant mieux pour lui. Mais tu peux aussi générer des millions et des millions de vues. Et ça débouche sur rien, en fait. Ça, c'est le côté très fast-food, en fait, de TikTok, quoi.
Oui, tout à fait.
Bon, écoutez, on va passer au troisième sujet. Et du coup, j'aimerais vous parler un petit peu de ce procès intenté par Elon Musk à OpenAI, qu'on peut peut-être qualifier un petit peu de caca nerveux, et qui en même temps, ça ne serait pas le premier pour Elon Musk, mais qui en même temps a peut-être un fond de légitimité. De quoi s'agit-il ? Elon Musk intente un procès à OpenAI avec la raison invoquée qui est que OpenAI est conçu comme une organisation, pas caritative, mais une organisation à but non lucratif, dont l'objectif est de concevoir et de guider l'IA générale, l'intelligence artificielle générale, donc AGI, au bénéfice de l'humanité. Et quand on parle d'organisation à but non lucratif, ça ne s'aligne plus avec le statut actuel d'OpenAI, puisque l'organisation à but non lucratif de base a créé une société, donc à but lucratif, qu'elle contrôle, mais qui est là pour faire de l'argent. Et donc, ce que dit Elon Musk, c'est que l'introduction d'un objectif financier pervertit la mission de base d'OpenAI et trahit donc ses objectifs d'origine. Pourquoi est-ce que Elon Musk s'intéresse à cette question spécifiquement ? Il y a plusieurs raisons. D'une part, parce que lui... est particulièrement intéressé par l'IA, averti des dangers de l'IA de manière un petit peu catastrophiste peut-être depuis longtemps, a également lancé un projet d'IA qui reprend peut-être l'objectif de base d'OpenAI, et surtout, Elon Musk faisait partie des tout premiers fondateurs de OpenAI, aux côtés d'autres fondateurs et de Sam Altman, et il y a eu en 2020 un désaccord entre Elon Musk et le reste d'OpenAI, notamment en raison de cette nouvelle orientation, et Elon Musk a quitté OpenAI. Il a quitté OpenAI, 2 ans plus tard, l'IA générative explose et OpenAI connaît un succès phénoménal qu'on connaît. Elon Musk se retrouve peut-être un petit peu piqué, frustré d'avoir quitté le navire au mauvais moment. D'un autre côté, pourquoi est-ce que OpenAI a décidé de changer sa structure ou en tout cas d'y ajouter une société à but lucratif? Ce qu'ils expliquent, c'est que c'est bien gentil de vouloir, en tant que société à but non lucratif, guider l'IA et l'AGI, mais ce n'est pas avec les quelques dizaines de millions que donnent Elon Musk et les autres qu'on va pouvoir avoir un impact significatif sur le développement de l'IA. Pour ça, il faut un financement massif, il faut des fermes de serveurs importantes qu'il faut payer, il faut une capacité de compute énorme, et tu ne peux pas faire ça juste avec de l'eau fraîche et de la bonne volonté. Donc, la création d'une société en dessous de l'organisation d'OpenAI était non seulement importante, mais inévitable. C'est-à-dire qu'OpenAI n'aurait pas du tout l'importance qu'elle a aujourd'hui s'il n'avait pas un bras commercial et qu'il reste, eux, dans cet objectif d'origine de guider l'IA et le développement de l'IA pour le bien de l'humanité, même s'ils ont un bras commercial derrière. Alors, je vous laisserai apprécier la véracité ou la cohérence de chacun des arguments. Ce qui reste en plus de tout ça, c'est le fameux procès d'Elon Musk, qui, pour le coup, selon l'ensemble des experts, est quand même d'une ineptie sans nom. Légalement, le procès n'a aucun sens. Et c'est peut-être là qu'on revient à la qualification de caca nerveux d'Elon Musk. Parce que ce qu'il dit, en gros, c'est que OpenAI avait promis, mais en fait non. Et avait promis, il n'y a pas de contrat à faire respecter, il n'y a pas, même pas de document écrit sérieux auquel se référer, il n'y a rien, il n'y a que du vent. Il y a de vagues statuts d'une organisation qui, de toute façon, ne sont pas remis en cause en tant que tel. Et puis, il y a une référence à un document complètement officieux de Microsoft, une discussion par email, dans laquelle les ingénieurs de Microsoft disent « Ah, mais quand même, OpenAI, ils font un ChatGPT qui est complètement fou. Parfois, ils font des réponses tellement… le système fait des réponses… tellement bien conçu, on a presque l'impression d'y voir des étincelles d'AGI. » Et les avocats d'Elon Musk, qui sont, je pense, bien contents de prendre beaucoup d'argent à Elon Musk pour ça, mettent en avant ce document qui est juste un échange de mails entre ingénieurs et de dire « Regardez, Microsoft a la preuve qu'OpenAI est presque en train de créer une AGI et extrapole sur le fait que du coup, ils ont trahi leur mission de base. Légalement, c'est ridicule, ça n'a aucun sens et aucune chance d'atteindre son but. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est pour satisfaire l'ego et les lubies d'Elon Musk, peut-être? Est-ce que c'est pour faire parler encore d'Elon Musk et on est victime de ça et de poser la question? Parce qu'une technique qui est très frustrante et que j'aborde, dans ce genre de problématique, c'est de poser la question. Et donc, ça fait parler et ça met toujours un doute quelque part. C'est-à-dire que si je dis aujourd'hui, est-ce que Jérôme se teint la barbe pour faire croire qu'il est plus sage que vraiment ? On pourrait lancer un débat immense et il y aurait toujours, je ne sais pas, 1, 2, 3% de la population qui va quand même se poser la question, qui va dire « Ah ouais, non, mais quand même, c'est pas clair. Hein. Regarde, il y a des fois, elle est un peu plus blanche, un peu moins blanche. Ah non, mais moi je crois qu'il y a anguille sous roche. » Alors que c'est un truc monté de nulle part. Et là, on est un petit peu, je crois, dans ce contexte où Elon Musk… Enfin non, pas tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a cette tension entre la nature non lucrative de OpenAI, l'organisation, et leurs activités commerciales. C'est vrai qu'il y a une tension. mais elle est établie depuis longtemps, elle est expliquée depuis longtemps. On peut dire que ça nuit à la mission d'OpenAI peut-être, mais le fait d'en faire un procès n'a vraiment aucun sens, à mon avis. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que Elon Musk a raison ? Je vais poser la question à celui qui a été victime d'une accusation sans fondement il y a assez peu de temps, Jérôme, et sa barbe blanche, qui se teint potentiellement.
Il est en train d'afficher ce qu'il y a.
Il est en train de faire un dossier.
Il dit, oh là
là, merde.
Non, attendez, elle était majeure.
Je regarde plus X, donc j'étais à la merde. Corben, il a eu un bad buzz, ou Cédric, qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'elle était majeure?
Tu sais, en ce moment, drôle, il faut vrai. Naviguer entre les gouttes de sauce, tu sais, sur les réseaux sociaux. Tu te dis, demain, ça sera peut-être moi. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la sauce peut arriver qu'elle soit vraie ou pas aujourd'hui. Et Elon Musk l'a très bien compris et il l'a théorisé. Tu dis, le procès ne sert à rien. Lui dira, mais si, parce que la vérité ne sert à rien. Par contre, l'indignation sert. Et il a très bien compris ça, avec tout le cynisme d'Elon Musk, qu'aujourd'hui, même de distiller les graines de la discorde et du soupçon de l'indignation dans la tête des gens a beaucoup plus de portée que de dire la vérité. La vérité, c'est fade, la vérité, c'est mou, c'est nuancé, c'est gris. Ça n'intéresse personne, la vérité. Aujourd'hui, il faut indigner les gens, les soulever sur des causes, leur dire « Regardez, c'est scandaleux, OpenAI, ils font ça rien que pour l'oignon. Pour le pognon. Rien que pour le pognon. Alors que moi, Elon Musk, l'hypocrisie du truc, elle est absolue, mais ça passe. Je veux dire que ça soit Trump, Elon Musk, c'est des mecs qui ont compris comment fonctionnait la communication dans les années 2020. On s'en fout finalement des bases véridiques, juridiques des choses. Le tout, c'est d'attiser des haines, des tensions, de la polarité en fait. C'est juste ça. Donc là, qu'est-ce que fait Elon Musk ? C'est simplement, il dit OpenAI, c'est des méchants. Ils font ça que pour l'argent. Moi, je fais ça pour la passion. Et mon
pour
intelligence artificielle, pour l'humanité, sera beaucoup plus libre. Elle aura même la liberté de vous insulter. Mais donc ça va être vachement mieux ce que je fais. Et moi, je ne fais pas du tout ça pour l'argent. Voilà, en gros, c'est... J'ai envie de dire, c'est n'importe quoi. Oui, mais Elon Musk a-t-il encore du sens ? En fait, je pense qu'il s'en fout d'avoir du sens.
Moi, j'ai l'impression qu'il aime bien qu'on le regarde et on le sert, finalement, en parlant ici, peut-être.
Bien sûr.
Cédric, est-ce n'importe quoi ? Corben, également Est-ce qu'on en parle déjà trop ? Est-ce qu'on doit passer à autre chose ? Je ne sais pas.
Sur OpenAI, c'est vrai que leur promesse de départ, c'était un peu ça. C'était on est ouvert, d'ailleurs, c'est dans le nom, open, machin et tout. Après, moi, je ne savais pas ce que tu as dit. Enfin, voilà, je ne me suis pas intéressé au sujet, mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas de documents, de trucs qui disaient. Enfin, d'engagement.
Il n'y a pas de contrat.
Parce que quand tu as des logiciels libres, etc., tu as des licences, tu as des choses comme ça qui peuvent être contestées. Maintenant, s'il n'y a rien qui a été... ils ont fait juste une promesse dans le vent. Alors, je pense que ça a vraiment trompé des gens qui ont peut-être cru au projet, qui se sont dit...
ils ont créé une fondation, donc il y a quand même des documents, mais dans les documents de la fondation, il n'y avait pas écrit qu'ils ne gagneraient pas d'argent avec ou qu'ils ne montrent pas une entité commerciale, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais, ils ont eu cette astuce de monter une entité commerciale en dessous qu'ils contrôlent. Le font parfois certaines organisations. Mais ce qu'ils disent, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'ils disent, c'est si on ne génère pas d'argent, bon courage pour guider l'IA. Ça s'inscrit quand même dans leur mission.
Ah oui, c'est certain. Mais après, je pense qu'Elon Musk est encore à côté de la plaque, mais c'est juste pour les faire chier, je pense qu'il le sait. Oui. C'est juste pour, comme tu disais, c'est pour déclencher le débat. Mais il y avait quand même une promesse à la base qui était... qui était celle-là, quoi, de dire on ouvre le truc et là pour l'instant il n'y a rien d'ouvert, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de retour.
À mon avis, ça va pas arriver tout de suite.
Non, ça n'arrivera pas. Mais du coup, il y a tromperie un peu. Enfin, en tout cas, voilà, il y a tromperie un peu sur la marchandise quand même du côté d'OpenAI. Quoi.
Mais je pense qu'il n'est pas suffisamment idiot pour croire en ce qu'il dit. On en est là. En fait, c'est uniquement une campagne de dénigrement d'un concurrent. Mmh. Et en fait, c'est l'une des rares fois où, dans les affaires, il s'est planté. Et c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y était au bord d'OpenAI Et il est parti. Et en fait, je pense qu'il doit le regretter. Et Musk, si tu changes une lettre, ça fait sum, en fait. Enfin, tu peux écrire ça. mais, et c'est vraiment ça, en fait, le truc. Son problème à lui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il se dit, mais putain, je suis passé à côté d'un énorme truc. Mmh. Et ce truc-là, parce que c'est un gros mégalo, donc lui, il veut sauver l'humanité avec des voitures électriques et envoyer les gens sur Mars, et etc. Et il dit,
je continue à dire qu'il y est quand même arrivé mieux que l'intégralité de l'humanité avant lui. Hein. Donc il y a quand même quelque chose derrière.
Ça, mais attention, je ne dis pas. Mais là, en fait, il passe à côté d'un truc qui va changer énormément de choses dans l'humanité. Il se dit, putain, j'aurais pas réussi à faire tous les trucs qui vont changer l'humanité. Bah, tu vois, là, il implante des puces dans le cerveau des gens et tout, mais il va pas jusqu'au bout du truc, quoi.
C'est surtout là où Cédric a quand même raison. Les voitures volantes, des visières Vision Pro et tout ça, ça n'ira pas plus loin sans l'IA. L'IA est une techno fondamentale qui va devenir toutes les autres technos dans le futur. Et le fait qu'il ait raté ce coche-là, c'est un peu comme si Edison avait inventé l'ampoule, mais il était passé à côté de l'électricité, tu vois. Et ça doit le perturber quand même, quelque part. Je suis d'accord avec Cédric là-dessus.
Bon, bah écoutez, on suivra ce procès également. Je voulais mentionner à côté de tout ça que les anciens dirigeants de Twitter, Parag Agrawal et les autres, CEO, CFO, etc., ont intenté un procès à Musk parce qu'il ne les a pas payés comme il était censé les payer. Et donc, il y a un procès là-dessus aussi, c'est pas le dernier.
Bah ouais, mais il fait pas ça pour l'argent, c'est normal.
Bah oui, bien sûr.
Bah ouais.
C'est pas pour l'argent.
Voilà.
C'est donc tout pour les trois sujets importants du jour. Un petit mot pour vous rappeler que si vous voulez soutenir cette émission, c'est possible. Vous l'ignoriez peut-être. Peut-être que vous ne saviez pas que vous pouviez soutenir le Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech. Eh bien, je suis là pour vous le rappeler. Et pour vous rappeler que non seulement vous pourrez, je vois que certains envoient de l'argent déjà là, ils sortent leur portefeuille, ils le jettent à l'écran. Non, ne faites pas ça. Le portefeuille jeté sur votre écran n'aura aucun effet, si ce n'est peut-être que de casser votre écran. Allez plutôt sur votre navigateur favori et entrez l'URL patreon.com/rdvtech. Et regardez ce que vous offre comme soutien ce site formidable, avec pour le tarif modique, pour la somme, pour un café, pour un petit sandwich, vous pourriez soutenir l'émission et avoir des contenus bonus, avoir accès à des couleurs spéciales et des salons spéciaux sur Discord, etc. etc. Et Jérôme, les 5 euros, ils passent pas par l'écran. Ils passent pas par l'écran. Tu peux aller sur Patreon.
C'est tout ce que
attends,
j'ai.
15 euros. Ah oui, non, mais alors là, ça commence à parler sérieux. Et surtout, vous le savez, en fait, la chose que vous obtenez le plus avec ce soutien, c'est la fierté, le bonheur, la joie d'être soutien d'un créateur de contenu que vous appréciez, de son projet que vous appréciez, un endroit où on parle de sujets peut-être un peu buzzy, mais sans faire du buzz. On n'est pas comme certains ou certaines sur YouTube ou sur TikTok ou qui vont vous parler de la moitié de certaines choses ou qui vont les mettre en avant d'une manière bien controversée, etc. Non, nous, on parle des choses. Même parfois, ça fait... Ça mécontente certains, mais on les présente de manière un petit peu plus nuancée. Donc, si vous appréciez cette approche, patreon.com/rdvtech. Merci à tous et à toutes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
sur le passage Patreon, on parlait de personnes qui font du putaclic. Et Jérôme, c'est justement, c'est à toi que je pensais, Jérôme. Hein. Quand je
flèche
vois
jaune,
la manière dont
jaune,
les
flèches jaunes,
je vois la manière
Apple
dont
va
on
mourir.
Évolue, c'est ça. Ce produit,
non, mais
qu'Apple
non,
vous cache.
C'est une évolution de survie. Hein. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais en gros, c'est vrai que si sur YouTube, tu ne fais pas un titre comme ça, il n'y a plus personne qui vient te voir. Hein.
C'est vrai ? Tu l'as constaté ?
Ah, mais carrément.
Parce que je plaisante un peu en disant c'est du putaclic, du machin, mais disons que j'ai l'impression qu'effectivement, Nowtech fait plus de sujets porteurs que par le passé.
Ah, mais en fait, Nowtech avant pouvait survivre avec sa base d'abonnés, sa base de fidèles. Mais aujourd'hui, les abonnés YouTube ne reçoivent plus nos vidéos. Mmh. Donc, chaque nouvelle vidéo qui sort, il faut penser au buzz effect. Alors, on essaye de ne pas franchir certaines barrières, mais on va dire qu'on les a repoussées quand même. non, mais il y a un travail maintenant de marketing. Entre la vignette et le titre, et on n'arrête pas de les changer aussi pour trouver ce qui marche, parce que sinon, avant, tu pouvais avoir un nombre de vues minimum qui te permettait de vivre. Aujourd'hui, si ta vidéo elle n'est pas recommandée par YouTube, ta vidéo, elle n'existe pas, en fait.
Je comprends.
Donc, voilà, c'est ça. Après, voilà, il y a toujours une nuance entre le putaclic et, on va dire, l'esthétique du clic.
Très bien, on le comprend. Avant de parler de quelques autres sujets un peu rapidement, d'actu, je voulais vous poser la question sur Mobile Connect d'Orange. Est-ce que vous connaissez Mobile Connect d'Orange ? C'est leur solution d'authentification double facteur. Et j'ai eu une mésaventure en début de semaine. Ma maman utilise Orange et elle a, sur la page de login, le Mobile Connect qui est poussé de manière hyper maladroite, je trouve. C'est-à-dire qu'au lieu de te connecter avec ton mot de passe, il te propose de te connecter avec Mobile Connect. Quand tu appuies sur le truc de login, bah, en fait, ça dit « Connectez-vous avec Mobile Connect », même quand tu ne l'as pas activé. Et Mobile Connect, c'est un truc qui lie ton login à ta carte SIM. Et la carte SIM, je ne le savais pas jusqu'à cette mésaventure. En fait, tu peux avoir des micro-apps sur carte SIM qui vont du coup, sur ton téléphone, afficher une fenêtre qui va te demander de confirmer le login. Et donc, il faut l'installer. Évidemment, Orange a ton numéro de téléphone et ta carte SIM, donc ils peuvent le faire facilement. Mais si l'intention est louable de forcer la double authentification ou en tout cas l'authentification avec objet physique, l'implémentation est hyper maladroite et l'explication de ce qu'est Mobile Connect est totalement imbitable. C'est-à-dire que ma mère a implémenté le truc parce qu'elle a cliqué, elle ne comprenait pas bien et donc elle a cliqué, elle a mis un code, machin. Et au bout, quand tu l'as activé, il y a 8 heures pendant lesquelles tu ne peux pas te connecter à ton compte pour des raisons de sécurité. Mais elle m'a appelé, elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Je crois que j'ai cassé mon compte Orange, machin. Donc moi, je me connecte et j'essaye de comprendre ce qu'est Mobile Connect. Je vous jure, la documentation est tellement inexistante que je n'ai pas compris ce qu'était Mobile Connect. Comment ça fonctionnait ? C'est pas une app. Moi, je me suis dit, attends, est-ce que tu dois télécharger l'app, machin ? Non. Et il t'explique pas. Il t'explique pas le fonctionnement pour que tu saches que c'est pas un truc que tu dois télécharger ou une page web. Ou j'ai trouvé ça imbitable. Du coup, je suis allé me plaindre sur Twitter. Ils m'ont répondu très rapidement en disant, ah oui, ok, bon, on va vous le désactiver, donnez-nous les infos. Et finalement, ils l'ont pas fait. Ils ont oublié, j'en sais rien. Et on a fini par se débrouiller avec ma maman. Mais franchement, l'implémentation d'une intention louable qui est de pousser, en fait, c'est une authentification double facteur, puisque, ou en tout cas avec le pass, les passcodes. Mais c'est tellement mal foutu, l'UX est tellement mal foutu, j'ai été vraiment surpris, quoi. Donc l'ingénierie est bonne derrière, mais l'UX, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Bref, on me dit oui, très mal foutu, très mal fait dans la chat. Bon, vous ne connaissez pas Mobile Connect, tout le monde s'en fout.
Non, je ne connaissais pas.
je voulais exprimer ma frustration, surtout que pour non, nous, mais, on se débrouille. Mais les personnes un peu plus âgées ou qui ne sont pas aussi au fait de la technologie, je vous jure, on ne comprend rien. Et ils le poussent. C'est-à-dire que quand tu te logues, comme toujours, à ton compte Orange, c'est pas qu'ils vont te mettre un écran intermédiaire après le login, voulez-vous activer Mobile Connect, c'est comme ça que ça marche, machin. C'est qu'au lieu de te loguer, t'as en tout petit en bas, on se logue avec le mot de passe, mais au lieu de te loguer avec ton mot de passe comme d'habitude, tu mets ton email ou ce que c'est, et quand t'appuies sur le bouton qui est en dessous, ça te met vers le processus de création de ton truc Mobile Connect, mais tu sais pas si tu le voulais, si tu... Très mal foutu.
Mais d'une manière générale, Orange a un gros problème du X-Design hein, sur les sites, sur les services. C'est imbitable. Moi, j'ai un service pro. Je ne sais même pas si je dois aller sur le lounge, si j'ai un compte pro. Si j'ai... Enfin, c'est horrible. Hein, la navigation chez Orange, c'est... dans leur service, c'est horrible. Pour retrouver mes factures, au secours.
Moi, je suis chez Orange aussi et je suis très satisfait du service. Je trouve qu'il est de très grande qualité, très grande fiabilité. Mais bon, bref, l'UX, c'est pas ça.
Non.
Coup de gueule passé. Le Mobile World Congress, je pensais en faire un sujet important de l'émission. En fait, il y avait tellement rien. J'ai carrément sauté le truc. Enfin, on a parlé de la Galaxy Ring. La semaine dernière, on parlait des écrans transparents. Genre le truc inutile qui fait science-fiction, on le fait parce que c'est la science-fiction. Il y a l'AI Pin qui est visiblement un petit peu meilleur que ce que pensaient les gens. Il y a ce téléphone pliable, mais genre pliable qui se replie en... comment dire ? En bracelet. Enfin, c'est un U, quoi. C'est hyper moche. Bon, je trouve que le Mobile World Congress avait vraiment pas grand-chose d'intéressant cette année, quoi. Du coup... On peut parler d'autre chose. On peut parler de Klarna. Vous savez ce que c'est, Klarna ?
Non.
Pas du tout. Klarna, c'est une boîte de Buy Now, Pay Later. En gros, de financement et de paiement. Qui propose ses services à différentes sociétés qui font de l'e-commerce généralement. Eh bien, ils ont, lors de leur dernier résultat, déclaré que l'assistant IA qu'ils avaient déployé, faisait le travail de 700 personnes, qui est beaucoup, mais qui, surtout, il y a quelques mois, ils ont, figurez-vous, licencié combien de personnes, à votre avis ? Dites un chiffre 700. Comme ça au hasard.
700.
Exactement. Et évidemment, les 700 personnes ne bossaient pas dans les domaines qui sont pris en charge par cet assistant IA dont ils se vantent aujourd'hui. Mais enfin, vraiment dire, on a licencié 700 personnes il y a 3 mois et aujourd'hui, notre IA fait le boulot de 700 personnes. Vous imaginez bien que ça a fait grincer des dents.
Transformé en bad buzz, en argument marketing. Tu vois,
Alors qu'évidemment, ils parlaient à leurs investisseurs.
Les boîtes de jeux vidéo vont faire pareil, tu sais.
C'est ça.
Les boîtes de jeux vidéo vont faire pareil. On a supprimé 900 postes de développeurs et tout ça, machin, parce qu'en fait, on utilise l'IA qu'on utilise dans ce jeu, justement, fait le travail de 900 personnes. Elle peut gérer 900 NPC en simultané, vous voyez, c'est incroyable.
Alors. Évidemment, c'est notable que leur IA... Alors, ils parlent à leurs investisseurs, etc. Donc, dire « Ah, une IA fait le travail de 700 personnes. » Faut voir ce qu'il y a vraiment derrière. Mais le genre de tâches qui sont accélérées par les IA, effectivement, surtout pour une société qui va gérer certaines tâches de contact avec des clients qui ont besoin de support... Bah, ce qu'on a aujourd'hui, qui sont des robots un petit peu schématiques, qui vont dire « Ah, bah, j'ai repéré tel et tel mot-clé, je vais te proposer tel et tel article de support. » Bon, bah, généralement, ça ne marche pas super bien. Y a plein de questions qui peuvent se poser ensuite sur est-ce qu'on a envie de gens qui travaillent dans ce genre de boulot de support client à faire des boulots très monotones, peut-être pas. Est-ce que on peut espérer que les gens qui auraient travaillé là auront d'autres travaux plus intéressants et qui ne seront pas au chômage ? On peut se poser la question. Jérôme Kainborg a dit de façon assez célèbre que dans les 2 ans, 80% des employés du monde seraient remplacés par des IA. C'était il y a un an et demi, je crois. On n'y est pas encore tout à fait, mais 700 employés chez Klarna.
Il y avait des nuances. Hein. T'as un peu Elon Musk et ma phrase, quand même.
Donc bon, voilà, c'était intéressant de mentionner cette histoire. Et puisqu'on parle d'IA, tiens, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des nouveautés dans l'IA qui sont notées par des comptes Twitter que je suis. L'une d'entre elles, c'est un projet d'Alibaba qui anime une photo qui va se mettre à bouger et à chanter avec du lip-sync juste à partir d'une photo. Alors, je ne vais pas vous passer la musique parce que ça ne sert à rien. C'est vraiment juste...
Si c'est universel.
Et puis, si c'est universel, on va se faire... hein. Mais c'est vraiment juste une photo ou un tableau qui, à partir d'un seul tableau, du coup, bouge et est animé de manière assez convaincante. Je vais vous donner les autres projets que je voulais mettre en avant. Il y a également une société qui s'appelle Pika Labs qui fait de l'édition vidéo par IA, qui a activé le lip sync, qui marche très bien, et surtout un nouveau projet de conception de vidéo qui s'appelle LTX Studio, dont l'objectif de la boîte, c'est pas juste de créer des vidéos, mais de suivre. En fait, c'est presque de la génération et du montage de storyboard et de vidéos, de films complets avec des scènes qui peuvent garder les mêmes personnes et qu'on peut modifier spécifiquement, genre à tel protagoniste, il faut que ça soit un homme plutôt qu'une femme, il faut que ça soit une voiture rouge plutôt qu'une voiture verte. Et donc, on peut modifier les scènes, les enchaîner, les déplacer et donc, en fait, concevoir des petits films vidéo par IA. Et on a un niveau de contrôle sur l'IA. Ce n'est pas la qualité de Sora dont on parlait il y a quelques semaines, le nouveau concepteur, enfin générateur de vidéos d'OpenAI, mais le fait d'avoir un contrôle aussi grand sur les vidéos qui sont générées est assez impressionnant. Ça s'appelle LTX Studio.
Dans quelques années, en gros, tu ouvriras ton Netflix, tu diras « j'ai envie de regarder une série de SF avec... » Enfin, tu prompteras, en fait, et il te générera une série. Bah, ça permettra de gagner les 20 minutes où on cherche un truc à regarder avant de t'endormir lamentablement sans avoir rien regardé.
C'est marrant parce que, effectivement, tu leapfrogs le truc. C'est pas que les vidéos... Les générateurs de vidéos vont être utilisés pour remplacer les vrais acteurs et les vrais cinémas, les vrais réalisateurs, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais tu vas plus loin en disant bah, on va pouvoir nous faire le film qu'on veut dans quelques
années. Tu généreras la série que tu as envie de regarder. J'ai envie de voir des samouraïs dans l'espace avec des tubas et hop, tu auras ta série.
C'est très spécifique, effectivement. Très impressionnant, ce truc. mais là où je peux voir une utilisation, c'est pour tout ce qui est... Alors, évidemment, pas... enfin, en tout cas, à ce stade, pas série, pas ciné. Enfin, les gens qui vont vous dire « Oh, ça y est, on va remplacer les acteurs. » Non. Par contre, là où ça peut faire des trucs vraiment qui peuvent remplacer le travail de certains et de certaines, c'est tous les petits films d'animation d'entreprise... pour présenter un produit ou du support ou du...
Je peux... Pub en général, hein.
Ou même pub, oui, ce genre de truc, ça pourrait donner quelque chose. Maintenant, c'est comme la génération d'images, il y a quand même un style qui est reconnaissable encore, tout de suite, et très vite, je pense que ça va être plutôt un turn-off, c'est-à-dire qu'on va dire « Oh, ah, c'est encore un truc en IA, berk, vite, vite, ferme », parce qu'il y en aura tellement... je pense que notre cerveau est entraîné pour se dire qu'on voit tellement d'un même truc, ou d'un moment on n'en peut plus. Et...
Ouais, c'est l'effet uncanny, quoi, aussi.
Alors, uncanny aussi, mais juste le style, tu sais, aujourd'hui, enfin, il y a quoi, un an, on se disait, oh, c'est quand même intéressant ce qu'on peut faire avec l'IA en génération d'images, machin. Maintenant, tu les repères à 10 km et oui. ça te donne la nausée presque, je trouve.
Et c'est un phénomène assez intéressant, comme en moins d'une année, de dire ce truc est généré avec de l'IA ou aidé avec de l'IA, c'est devenu le wish d'il y a 4-5 ans. Ça veut dire automatiquement basse qualité, mauvais en fait. Ouais. Dire généré par IA, maintenant, c'est en train de devenir un truc très négatif.
Mais moi, par exemple, là, tu vois, sur tout ce qui est lip-sync, j'utilise déjà. C'est-à-dire, je prends mes vidéos YouTube et je les lip-sync en anglais et je les ai mis sur une nouvelle chaîne full English, quoi.
Ah oui.
Et,
ça s'appelle et ça comment? C'est Corben English.
Ça marche bien. Ouais, un truc dans le genre. Attends, je te mets le lien. Je t'en mets une.
Corben English.
Je teste. Hein, soyez indulgents. Hein, c'est de la. Non, pas. C'est pas Corben English.
Non. Corben English. Mais... Non.
Voilà, comme ça, ça me demande. Non, c'est. Mais je t'ai mis le lien dans le chat.
Ah oui, c'est Corben Tech.
Ah, c'est génial.
Mais en fait, mais je trouve que c'est inspiré de Nowtech. T'as quand même 65 abonnés là.
Ouais, c'est pas mal. Mais on reprend, enfin, prends n'importe quelle vidéo, tu vas m'entendre parler anglais avec ma voix et le lip sync est top. Et c'est.
Alors attends, on va faire écouter ce que ça donne. Hop, normalement, vous devriez entendre maintenant.
It's thanks to you that I can make these videos, feed my Corben website. And then, I don't know, there's a good vibe, we laugh on Twitch or when you contact me via Patreon.
C'est marrant parce que effectivement, alors il y a un accent particulier, mais ça ressemble de très fort à ta voix. Et, et le lip-sync que les auditeurs, évidemment, sur le podcast ne voient pas, le lip-sync est quasiment parfait, quoi. Et tu bouges la tête, c'est impressionnant.
Bah après, c'est ma vraie vidéo, hein. C'est pas une vidéo. Parce que ça aussi,
Mais c'est ta vraie vidéo qui est enregistrée en français et tu traduis la chose et il synchronise les mouvements labiaux.
C'est ça.
Et ça marche super, super bien. Même avec le micro devant ta bouche, ça marche pas mal.
Ouais.
Ça, c'est dans les trucs positifs, ça va permettre au film, parce que souvent, c'est quand même très. Enfin, t'as le mouvement d'élèves qui correspond pas à la version.
La
voilà, ça va permettre de synchroniser ça. Donc ça, ça va dans le bien. Mais oui, ça va poser d'autres problèmes aussi.
Quoi d'autre dans les sujets intéressants? Threads a, semble-t-il, 3 fois plus de téléchargements que X, que Twitter. Encore de quoi faire s'arracher les cheveux à Elon Musk. En gros, bon... Le nombre de téléchargements, en fait, est un métrique, un outil utilisé par les cabinets d'analyse pour déterminer la popularité d'une application. Même quand c'est une application qui existe depuis longtemps, eh ben, le nombre de téléchargements est un facteur important. Et il semblerait que Threads soit beaucoup plus téléchargé que Twitter. C'est pas tant... la popularité déclinante de Twitter qu'on peut conclure, mais plutôt le fait que Threads se débrouille plutôt bien, je crois. Moi, c'est la conclusion que j'en ai. Et puis, deux petits sujets qui restent. D'une part, le Vietnam a augmenté sa part du nombre de la quantité d'exports de... téléphone mobile, il est passé de combien, que je vous dise pas de bêtises, il est passé de 1% en 2010 à 12% en 2022. Donc, c'est l'un des pays qui est en train de gagner l'opportunité de l'export, enfin de l'expatriation des fabricants de téléphones mobiles de Chine, étant donné tous les problèmes avec la Chine. Eh ben, le Vietnam s'en sort plutôt pas mal, de 1 à 12%. Alors, j'imagine qu'en 2010, c'était vraiment inexistant au Vietnam, mais 12% du nombre d'exports globaux de smartphones, c'est plutôt pas mal. Et puis, le Bitcoin a atteint 67 000 dollars par Bitcoin. On parlait avec le halving qui approche, qui est tout proche maintenant, du fait que les Bitcoins et l'environnement juridique favorable, le fait que les Bitcoins augmentent en valeur, et ben là, on est quasiment à la plus haute valeur de l'histoire du Bitcoin, 67 000 dollars. Donc, voilà. Maintenant, vous savez.
Et il a même franchi les 68 000 rapidement.
Ah oui ? D'accord.
Ouais. Écoute. Et maintenant, il est tombé, fatalement. Les gens diraient, le pognon.
Il est quoi ?
C'est une machine à spéculation. Faut pas
bah oui. Donc ça y est, il commence à retomber.
Puisqu'en fait, les gens diraient, le pognon. Là, ils étaient à 66, tu vois. Bon, voilà.
Bon. Et puis, je vais mettre 2 articles dans la newsletter également que je vous recommande très chaleureusement. D'une part, un article sur la conception de microprocesseurs, l'histoire et le contexte de la conception de microprocesseurs du Financial Times, qui est un article un petit peu étendard, qui est gratuit, alors que le Financial Times est généralement payant. Et l'article est hyper bien fait, avec des graphismes, des animations, etc. Mais surtout, il explique une bonne partie de ce qu'il faut savoir sur, pour comprendre l'industrie du microprocesseur, de la fabrication aux enjeux économiques, aux gros acteurs, etc. Super bien fait, il sera dans la newsletter. Le lien pour s'abonner est dans, dans les notes de l'émission, évidemment, ou sur notepatrick.com. Et un autre article qui est hyper intéressant sur des gens qui utilisent des chatbots comme confidents, voire comme thérapie. C'est hyper intéressant, il y a des gens qui s'en servent en fait pour parler, comme thérapeute, comme psy, pour parler à quelqu'un, parce qu'ils n'ont personne à qui parler, et qui ont configuré un chatbot pour qu'il leur convienne, et qui s'en servent pour parler, pour se confier, etc. Alors évidemment, les professionnels disent « Ok, ça peut être utile, mais oula, faites gaffe, c'est quand même pas un spécialiste médical, et je pense que la plupart des gens le savent. » Donc je ne pense pas qu'on est dans un contexte où les gens disent « Oh non, mais c'est comme mon psy, non ?» Mais par contre, ça peut aider. Et l'article part dans tous ces détails, hyper intéressant. C'est un usage qu'on n'imaginait pas de l'IA. Qui est plutôt... Il y a une personne, par exemple, qui a conçu une IA comme elle imagine elle-même, mais dans 50 ans. Et tu vois, et qui lui parle en disant, en lui racontant sa vie, en demandant qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Évidemment, c'est de l'IA, hein, donc c'est halluciné, mais c'est un usage intéressant.
Moi, je l'utilise comme ça aussi, hein, parfois.
C'est vrai ? Pour te confier,
mais
pour
comme comme un outil de réflexion, en fait. C'est un peu comme si tu discutais avec toi-même, tu dis voilà, par exemple, je sais pas, t'as un problème, t'as un truc, tu réfléchis, voilà, tu dis voilà, moi je sais pas quoi faire, j'ai ça comme problème, tu vois, ça t'aide à peser le pour le contre. C'est un peu comme tu sais, le canard en plastique des développeurs, quoi. Tu discutes avec toi-même, en fait, quelque part.
Je pense que moi je commence aussi à l'utiliser comme ça, notamment en créant différentes IA avec différentes personnalités. Moi, c'est un peu comme les voix dans ma tête. En fait, c'est des alter ego. Non, mais en vrai, ça te permet d'avoir des dialogues parce que les idées viennent plus facilement en énonçant les choses et en discutant, même avec un alter ego, quoi. Et ça, on rigole quand je dis les voix dans ma tête. Mais en vrai, moi, c'est en train de me faire des gros progrès au niveau de mes réflexions parce que je peux faire des réunions avec moi-même, mais beaucoup plus tangibles que de réfléchir dans ma tête, en fait.
Puis il n'y a pas de tabou, tu vois. C'est un peu comme quand tu tapes une question à la con dans Google, personne ne sera là pour te juger, quoi. Alors que si tu parles de choses à des amis ou de la famille ou des gens que tu connais comme ça, tu peux toujours avoir peur d'être jugé, alors que là, tu peux te lâcher.
Complètement. D'ailleurs, Fanny nous dit dans la chatroom, c'est pas forcément les gens qui ont personne à qui parler, c'est aussi pour pas saouler les amis, ou peut-être même dire des choses
que t'as
qu'on
pas envie d'en
dire,
parler.
Ouais, voilà. Ouais, donc article super intéressant. On nous dit également, un truc que je voulais évoquer, traduction plus lip sync sur YouTube, donc ça envie le monde du cinéma, des traducteurs, etc. Mais il y a aussi le fait que du coup, on peut facilement, et ça a commencé il y a un moment déjà, MrBeast le fait, mais il n'est pas le seul, traduire facilement son contenu dans toutes les langues. Donc ça augmente encore plus la concurrence et l'abondance de contenu. C'est-à-dire que non seulement aujourd'hui, comme aujourd'hui, ou même comme il y a, enfin, on peut dire comme il y a un ou deux ans, ben, on avait tout le contenu dans notre langue et tout le contenu dans toutes les langues qu'on parle, a priori l'anglais. Aujourd'hui, en théorie, tout le contenu peut exister dans toutes les langues. Et j'imagine que dans pas trop longtemps, YouTube pourra activer cette option genre par défaut, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de lancer une nouvelle chaîne ou etc., tu peux activer genre « je veux que mon contenu soit disponible dans telle et telle et telle langue, je choisis l'intonation de la voix ou certains paramètres » et automatiquement, un viewer, un spectateur, peut choisir le contenu dans sa langue et c'est géré par le système YouTube potentiellement. On pourrait même imaginer que ça sera fait de manière plus efficace et moins consommatrice d'énergie parce que YouTube est spécialisé là-dedans. Donc, au-delà du fait que techniquement c'est intéressant, ça veut dire que l'abondance de contenu dont on pense qu'il est trop abondant aujourd'hui risque d'être encore plus décuplée dans les mois à venir, quoi. Bref.
Ça va devenir universel, en fait. Dès que tu publies un contenu, il est accessible pour tout le monde.
Pour tout le monde, dans toutes les langues, partout.
Ouais.
Merci à tous les trois d'avoir été présents jusqu'au bout de cette émission. Bon, je vais dire marathon, c'est pas forcément vrai, mais vous étiez tellement intéressants tous, je ne pouvais pas m'interrompre ou vous interrompre. On va évidemment vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver. Cédric De Luca, où peut-on te retrouver sur Internet ?
Yes. Sur Internet, j'allais dire sur X, mais non, parce qu'en fait, j'ai viré mon application de mon téléphone depuis des mois maintenant. Donc, depuis décembre, j'utilise plus X, ou quasiment plus. J'y suis. Quand on m'envoie un lien vers X, je clique et hop, j'y arrive. Le plus simple, c'est sur ma chaîne Twitch. Tiens, voilà, Cédric De Luca.
Voilà. Très bien, Cédric De Luca sur Twitch. Corben, où es-tu ?
Twitch aussi, sur CorbenFR, et puis mon site, corben.info. Voilà, et TikTok, CorbenInfo, tout collé.
CorbenInfo, tout voilà. Collé sur TikTok, c'est heureusement que tu n'utilises pas de musique de Universal, donc ton contenu
non,
est toujours...
Non, j'ai pas de souci.
Très bien. Jérôme, où es-tu sur Internet?
Toujours la chaîne YouTube, Nowtech. Un peu moins sur Twitch qu'avant, on a réduit un peu la voilure sur les lives matinaux. Mais par contre, on est beaucoup plus présent sur... Instagram, sur TikTok et on a commencé aussi les shorts sur YouTube pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, nouvelle expérimentation de format pour faire un peu du résumé des news en format court. Un exercice intéressant.
Tu mets la même chose que sur TikTok ou tu fais...
Alors là, au début, oui, mais maintenant on a déjà un rewriting et j'insiste, on rewrite, c'est pas juste un remontage. Entre les shorts et TikTok, Instagram. TikTok, Instagram, c'est la même chose. Mais les shorts, vu que c'est qu'une minute et pas une minute trente,
eh ben oui.
On fait un nouvel enregistrement du format court et un remontage.
Que de travail.
Voilà. Ouais.
Très bien, pour ma part, c'est Note Patrick, vous le savez, un petit peu partout. Vous pouvez également me retrouver sur Patreon, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. C'est sans doute le plus important. Pour toutes les raisons que vous connaissez, donc vous pouvez aller y faire un tour et voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse là-bas. Mais il y a aussi le Discord, tiens. Le Discord, vous n'avez pas parlé de Discord. Moi, je le mets en avant parce que le Discord, c'est super sympa. C'est un endroit pour se retrouver, avec des vrais gens. À ma connaissance, il n'y a pas encore de bot IA. Je ne crois pas, mais en tout cas, on y passe de bons moments. On parle de plein de trucs sympas. Il y a plein de sujets qu'on évoque, hein, la tech et le jeu vidéo, mais pas seulement ça. Donc, le Discord, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez nous y retrouver. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous. Alors, jeudi, pour ceux qui aiment le jeu vidéo, pour le rendez-vous jeu, et puis sinon, la semaine prochaine, pour le prochain rendez-vous tech. De gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.